7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, inquiétude et spleen, l'image des drogues dans nos sociétés. Jusqu'au 19e siècle, même jusqu'à la fin du 19e siècle, tout ce que l'on appelle les drogues aujourd'hui étaient des substances destinées à soigner. L'héroïne était le nom d'un médicament contre la toux produit par un laboratoire allemand d'ailleurs. Alors comment s'est fait le basculement vers une recherche de plaisir et ensuite un danger pour l'ordre public ? Comment ont évolué l'image des consommateurs de stupéfiants, du paisible fumeur d'opium aux agités du crack, pour faire face à quel malaise collectif et quelle réponse judiciaire, répression, dépénalisation, décriminalisation. Nous allons en parler avec vous, Emmanuel Retailleau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et vous publiez un livre-album passionnant qui s'appelle Stupéfiant, c'est le cas de le dire, l'imaginaire des drogues, de l'opium au LSD, où vous arrêtez dans les années 60-70, hein, oui. Cette période un peu psychédélique. À travers l'art, les dessins de presse, les affiches de films, le cinéma évidemment très, très présent dans cet imaginaire sur les drogues et des réalités aussi. Marie-Geoffrey Roustide, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'INSERM, au Centre de Recherche Médecine, Santé, Société et également coordinatrice à l'EHESS du programme Sciences Sociales, Drogues et Société. Vous travaillez sur l'Europe, sur les États-Unis. Et puis on sera également en ligne à Dakar avec le sociologue Babacar Diouf, qui est chargé de programme à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONU-DC. Les voisins, vous pouvez bien sûr nous appeler. Dites-nous quel regard vous portez sur les consommateurs de drogue, y compris si vous en êtes un, d'ailleurs régulier ou très irrégulier, peu importe. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Alors ne nous posez pas de questions sur les conséquences sur votre santé. Nous ne sommes pas à priorité santé, nous n'avons pas de médecin, mais on parle bien de ces raisons collectives qui poussent des individus à consommer des drogues et puis aussi quelle est l'image que l'on a dans ces sociétés. Et bien sûr, tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je vous lis quelques messages sur Facebook, c'est à la fois l'inquiétude et la compassion qui règne. Seido Anjamena au Tchad nous dit que la consommation de drogue est un phénomène qui est devenu planétaire. La jeunesse en fait parfois son sport le plus praticable. La formule est assez fine, hein ? Sous-entendu, qu'a-t-elle d'autre de disponible ? Élie, à Kinshasa, au Congo, il se produit parfois des événements qui échappent totalement à notre contrôle. Certaines personnes ne peuvent pas résister. Elles se droguent pour modifier leur état mental et peut-être pour fuir ces situations difficiles. Koff est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Un message juste pour apporter, nous dit Koff, un soutien moral. Souvent, ces personnes sont abandonnées. Sunda, N'Djamena, dans mon pays, le Tchad, il y a une drogue que l'on appelle le tramadol, qui à l'origine est un médicament, hein, que les jeunes prennent massivement tout le temps, même avant d'aller travailler. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Mamadou est en direct avec nous. Bonjour Mamadou.
Hey, bonjour, comment allez-vous ?
Très bien Mamadou, soyez le bienvenu chez 7 milliards de voisins. Vous êtes en direct de Dakar. Vous êtes, je crois que vous êtes étudiant, vous avez 23 ans, vous êtes dans une association de jeunes, d'étudiants, de jeunes diplômés. Vous aviez envie de vous exprimer pour nous dire ce que vous voyez en tant qu'étudiant à Dakar.
Oui, évidemment, bien sûr. Comme vous l'avez dit, c'est Mamadou Diallo, étudiant en troisième année à l'Université Sciences et Diop de Dakar.
Oui.
En tout cas, le phénomène que vous venez d'évoquer contre moi, voilà, c'est quelque chose que je côtoie au quotidien, bien sûr, en tout cas, voilà. Je suis aussi chargé du partenariat pour les associations qui œuvrent à la CIVAL, je suis chargé en tout cas de détourner ces jeunes qui prennent ce point. Je crois que des jeunes drogués, là où j'habite, ces drogués en tout cas sont considérés comme des éléments très dangereux pour la société.
Oui, Mamadou, je suis désolée, la ligne téléphonique, et vous n'y êtes vraiment pour rien, mais la ligne téléphonique est très mauvaise à Dakar, ce qui n'est pas habituel. Je voudrais juste peut-être reformuler ce que vous avez très bien dit, mais que l'on entend mal à cause de la ligne téléphonique. Mais c'est que ce que vous constatez, c'est que les drogués, là où vous habitez à Dakar, sont considérés comme des éléments dangereux pour la société. Et vous-même, d'ailleurs, vous faites part de votre inquiétude hein, sur la consommation de drogue chez les jeunes et vous dites que cela crée une augmentation de la délinquance et du risque de suicide. Hein. C'est bien cela, Mamadou ?
Oui, évidemment.
Merci Mamadou, en tout cas, de nous avoir appelé. Et vous pouvez bien sûr continuer de nous appeler tout au long de l'émission 33 1 84 22 71 71. Nous serons en ligne tout à l'heure avec Babacar Diouf, sociologue qui travaille pour les Nations Unies sur justement la drogue et la délinquance autour de la consommation de drogue pour les Nations Unies. Je voudrais qu'on revienne en face un grand bond en arrière dans l'histoire avec vous, Emmanuel Retailleau. Je le disais en introduction, l'héroïne a été à un moment donné au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, un médicament contre la toux. La feuille de coca était destinée à lutter contre la douleur. Alors, quand démarre finalement vraiment ce qu'on appelle l'histoire des drogues ?
Alors effectivement, c'est un phénomène de longue durée, hein, puisque ces produits, ils sont connus de très longue date. On les utilisait déjà dans les pharmacopées dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, sous leur forme naturelle. La pâte d'opium faite à partir du sucre de pavot, les feuilles de coca, les feuilles de cannabis. Et puis, au tournant des 18e, 19e siècle, donc quand même assez tôt hein, dans l'histoire, des individus plus curieux, plus expérimentaux que d'autres, essayent de consommer ces produits pour eux-mêmes parce que ça produit des effets particuliers, ça modifie leurs états de conscience, ça les fait rêver, ça les fait planer. Et petit à petit, ces produits vont être recherchés pour ce type de sensation. Et puis, au 19e siècle, les progrès de la science permettent aussi d'isoler les substances actives de ces plantes, ce qu'on appelle les alcaloïdes. Et là, c'est un saut tout à fait fondamental parce que ça donne accès à des produits beaucoup plus actifs et dont les propriétés sont évidemment beaucoup plus
et
importantes.
Et là, ils sont bien fabriqués pour être utilisés en tant que drogue.
Oui, alors, ils sont utilisés dans un premier temps comme médicaments. Hein, l'histoire des drogues, finalement, ça relève quand même des progrès de la médecine. Mais ils font aussi très vite l'objet d'usages détournés. Aussi parce que certains malades qui ont rencontré le produit lors de leur traitement ne peuvent plus s'en passer, deviennent accros et donc deviennent toxicomanes.
Alors c'est très lié aussi au voyage et à la colonisation. Quel rôle ont joué les Occidentaux dans le commerce et dans la consommation de drogue dans les pays d'Orient ?
Alors, le rôle des Occidentaux, on peut dire qu'il est fondateur. Hein. Ce sont eux qui ont inventé la drogue au sens moderne du terme. Les Anglais, notamment, lors de la colonisation de l'Inde, ont cherché à mettre à profit l'opium qui poussait naturellement sur ces terres.
Pour faire de l'argent, hein,
pour faire de l'argent, bien sûr. Et l'ont notamment introduit à grande échelle en Chine, puisque le marché chinois restait fermé à l'Occident et les commerçants européens ne supportaient pas d'être déficitaires finalement face à ce marché.
Ça veut dire que tout cet imaginaire autour des fumeries d'opium en Chine, ça a été apporté par les Occidentaux ?
Alors pas exactement, parce qu'il y avait déjà des formes de consommation locales. Hein. Ce ne sont pas les Occidentaux qui l'ont inventé, mais on peut dire qu'ils l'ont porté à grande échelle.
Industrialisé.
Et c'est vraiment au 19e siècle en Chine, sous l'influence donc de ces importations d'opium indien, que la Chine développe une opiumanie de grande ampleur.
Oui, et puis on pourrait aussi parler de ce que vous racontez dans votre livre, des soldats de Napoléon en Égypte qui découvrent le kif. Qu'est-ce que c'est exactement le kif ?
Alors le kif, en fait, c'est un mélange de tabac et de cannabis, parfois avec un petit peu d'opium, que l'on fumait de manière traditionnelle au Maghreb. Et effectivement, les soldats de Napoléon vont s'intéresser à ce produit qui fait rêver, qui fait planer, au point que dès cette époque, on est obligé de mettre en place une législation pour limiter la consommation.
Ouais. Alors ce qu'on comprend bien aussi, c'est que plus on est dans une situation difficile, des expatriés, alors à l'époque on ne parlait pas d'expatriés, mais des gens qui travaillaient loin de leur pays, dans des terres tout à fait perdues, cherchent à se perdre encore plus, dans tous les sens du terme, à travers ces fabriques à rêves finalement.
Effectivement, les militaires et les fonctionnaires coloniaux, tout particulièrement en Indochine, vont s'intéresser à ces produits qui sont consommés localement et qui font l'objet d'une consommation finalement socialisée, ritualisée, qui n'est pas forcément un problème ou une toxicomanie, hein, au sens fort du terme, et vont en consommer à titre récréatif. Et puis certains, effectivement, deviennent accrochés aux produits, deviennent opiomanes, oui. Et ça commence à poser problème.
Et puis, alors, il y a eu cette je ne veux pas dire mode, mais en tout cas ce mouvement de connaître son moi. La drogue permettait de mieux se connaître.
Les substances onirogènes, hein, c'est-à-dire productrices de rêves, ouvrent ce qu'on a appelé au XXe siècle les portes de la perception, et donc effectivement donnent accès à des états de conscience, à une sorte de voyage intérieur qui est perçu comme tout à fait nouveau, hein, au début du XIXe siècle. Donc évidemment, ça suscite des curiosités. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce sont souvent des médecins aliénistes, spécialistes de la folie, qui vont être les premiers à entreprendre ce type d'expérience. Et oui, c'est une nouveauté du XIXe siècle, et ça témoigne d'un changement de sensibilité et d'attente de la part des Européens.
Marie-Geoffrey Roustide, vous, en tant que sociologue, vous avez vous aussi étudié un peu l'histoire de la perception des drogues. À quel moment, finalement, apparaît la nécessité pour les États d'interdire, de réprimer, c'est-à-dire ce qu'on appelle la législation anti-drogue ?
Alors, en France, comme le rappellent les travaux des historiens, donc c'est au début du XXe siècle, hein, que les lois se font plus répressives, mais il y a vraiment une rupture très importante qui se situe aux alentours de mai 68, qui est la loi en fait du 31 décembre 1970, qui est encore en usage et en application en France aujourd'hui, et qui est une loi particulièrement répressive, qui réprime le simple usage de drogue, hein, pas uniquement le trafic et la cession de produits. Et en fait, les sociologues ont montré que le fait d'avoir mis en place une loi répressive dans les années 70 était aussi un moyen de venir essayer de criminaliser les étudiants de mai 68 qui étaient porteurs d'un mode de vie plus contestataire. Donc on voit que la loi, parfois, elle s'intéresse non pas tant à la drogue qu'au profil de consommateurs qui sont censés être identifiés comme utilisant ces produits. Donc en fait, le tournant en France, il est véritablement aux alentours de 1970, et depuis 1970, la loi a très peu évolué en France, contrairement à nos voisins européens.
Ce que vous voulez dire, c'est que finalement les politiques répressives ne sont pas destinées à s'occuper de la santé des consommateurs.
Les politiques répressives ne sont pas destinées, effectivement, vous avez raison, à s'occuper de la santé des consommateurs, puisque d'ailleurs, dans les pays qui ont... on voit que les pays qui ont le plus criminalisé l'usage de drogue, comme par exemple les Philippines ou les États-Unis,
alors la Russie, avec le président Duarte,
sont les pays dans lesquels l'état de santé des consommateurs est le plus mauvais. Par exemple, la Russie se caractérise par une épidémie de VIH extrêmement importante et qui est directement en lien avec la criminalisation de l'usage, parce que plus les usages sont cachés, plus les usages sont réprimés, plus ils sont cachés et moins les individus ont accès au système de santé.
Les Philippines, c'est vraiment le paroxysme, hein, puisqu'on a un président qui prétexte une répression généralisée, qui parle de génocide pour les usagers de drogue. En réalité, c'est une dictature tout court.
Tout à fait. Il appelle au meurtre, hein, d'ailleurs. Enfin, comme vous le disiez, il appelle aussi à la délation. Hein. Il appelle la population à dénoncer donc, les populations d'usagers. Donc, bien sûr, en France, on est très loin de cette situation. Mais vous avez des politiques de criminalisation de l'usage, comme par exemple aux États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, on voit aujourd'hui que les États-Unis sont confrontés à une épidémie d'opioïdes et de morts, d'overdose par opioïdes sans précédent.
Alors, 500 000 morts. Opioïdes,
les
mots qu'on connaît bien, nous.
Alors, les opioïdes, c'est à la fois donc, des opioïdes qui sont des opiacés médicamenteux, donc ils sont prescrits comme médicaments contre la douleur, par exemple, mais également de l'héroïne.
Qui sont surconsommés, en fait.
Qui sont
bien prescrits par des médecins.
Pour la moitié d'entre eux, qui sont prescrits par les médecins. Et en fait, il y a eu 500 000 morts aux États-Unis ces 15 dernières années, dont 300 000 sont attribuables aux médicaments opiacés, donc pour lutter contre la douleur, qui sont prescrits
par
des médecins.
Sauf que dans l'imaginaire des citoyens, là, il ne s'agit pas de gens qui sont dans des usages de drogue ou dans de la toxicité. Psychomanie.
Et c'est ça qui est intéressant également, c'est qu'on monte...
Rien à voir avec les usagers du crack, par exemple.
Alors, rien à voir avec les usagers du crack dans l'imaginaire, mais par contre, les situations vis-à-vis de la la dépendance sont les mêmes. Hein. Et donc, c'est ce qu'on a pu montrer là dans un numéro de la revue Esprit qu'on a publié en 2017 avec mon collègue Jean-Maxence Granier, c'est que les frontières entre drogue et médicaments sont de plus en plus floues. Mais par contre, l'expérience de la dépendance et la souffrance liée à la dépendance, elle est la même, quels que soient les milieux sociaux et quels que soient les produits qui sont utilisés.
On a l'impression, en tout cas, qu'on connaît beaucoup mieux les effets médicaux des drogues que les raisons profondes de la consommation en fonction des différents produits, d'ailleurs. On va en parler, bien sûr, vous restez avec nous. Et vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
Alors, 7 milliards de voisins.
Oui, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
On est en ligne avec Babacar Diouf, en direct de Dakar. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à vos deux invités et bonjour aux auditeurs de RFI.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes sociologue, vous êtes expert en santé publique, chargé de programmes à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC. Dites-nous comment on est passé à l'échelle du continent africain d'une consommation traditionnelle de cannabis, puisque pour des raisons de climat, le cannabis pousse relativement facilement dans certains pays d'Afrique, à un continent victime de sa position géographique.
Oui, en effet, je pense que l'Afrique de l'Ouest est victime de sa géographie, parce qu'en fait, elle est à la croisée de routes de drogue, celle qui vient de l'Asie, du Sud-Ouest, qui passe par l'Afrique de l'Est et qui amène de l'héroïne, et celle qui vient de l'Amérique latine qui amène la cocaïne. En fait, les trafiquants n'avaient pas pour objectif de fournir un marché africain de drogue.
Oui, mais un marché local.
Un marché local. Mais ils voulaient utiliser la plateforme africaine où il y a un corridor de ville, la porosité des frontières, la vulnérabilité de certaines institutions de contrôle. Mm. Donc, ils ont essayé d'utiliser ça pour exporter, réexporter la drogue vers l'Europe ou l'Amérique du Nord. Mm. Mais le problème, c'est que on a vu que certains narcotrafiquants, puisqu'en fait les financements internationaux sont surveillés, ils payent aussi en nature. Vous me faites passer 10 kilos de cocaïne ou d'héroïne, je vous paye 1 kilo. Et là, on a commencé à arroser un peu le marché local africain de ces drogues dures. À côté du cannabis, qu'on sait que c'est une consommation classique de l'homme d'Afrique.
Et ça date de quand, alors, finalement? De combien d'années, cette consommation locale, du fait de ces plateformes de transformation sur le continent?
Généralement, disons, c'est les 30 ou 20 dernières années. Fin années 80, dans les années 90, les plus grandes prises de drogue dans les côtes ouest africaines ont été faites au milieu des années 2000. Et ça a arrêté même les pouvoirs, puisque là, les premières rencontres, la déclaration de Praia a été faite, les premières rencontres dans le chef d'État. Et il y avait quand même un déni au niveau des pouvoirs publics, des populations, en se disant ben, les drogues dures, c'est pour l'Europe. Mais nous, qui travaillons avec plusieurs acteurs sur le terrain, on a pu démontrer qu'il y avait l'usage de drogues dites dures, héroïne, cocaïne, avec les médicaments détournés. Et ça posait beaucoup, beaucoup de problèmes de criminalité, de santé et d'exclusion sociale.
Vous restez avec nous, Babacar Diouf. On a encore beaucoup de questions à vous poser en direct de Dakar. Emmanuel Retailleau, vous voulez réagir en tant qu'historienne?
Oui, tout à fait. C'est très intéressant ce que vient de dire Babacar Diouf, parce qu'il s'est passé exactement la même chose en France, dans l'entre-deux-guerres, puisque c'est la période où commence à se mettre en place la fameuse French Connection, qui a donné lieu à des tas de films et de commentaires. Et la France, effectivement, devient, à la fin des années 20, au début des années 30, une plaque tournante des drogues entre l'Extrême-Orient et les États-Unis. Et donc, a priori, la drogue ne fait que traverser le territoire, notamment entre Marseille, où arrivent les bateaux, notamment d'Indochine, et Le Havre, d'où partent les bateaux vers les États-Unis. Mais ce trafic va aussi générer des phénomènes de consommation locale.
On va se retrouver dans 3 minutes et bien sûr aussi on parlera des situations.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins. On parle de l'image de la consommation des drogues dans nos sociétés et puis aussi de la réalité des malaises collectifs, du pourquoi de la consommation de la drogue. Un sujet qu'on aborde beaucoup plus rarement finalement que les conséquences sur la santé. Bien évidemment qu'il ne s'agit pas de nier, mais qui sont largement étudiées par les médecins qui répondent d'ailleurs régulièrement aux questions dans l'émission Priorité Santé. On en discute avec vous, Emmanuel Retailleau, vous êtes historienne, vous publiez Stupéfiant, l'imaginaire des drogues, de l'opium au LSD, alors à travers l'art, les dessins de presse, le cinéma, la littérature. D'ailleurs, on va aborder la question de qui étaient les consommateurs à la fin du 19e siècle. On commence vraiment à parler de l'usage de drogue et non plus de médicaments, puisqu'à l'origine, il s'agissait toujours de médicaments pour ces substances. Qui étaient ces consommateurs? Qui sont-ils aujourd'hui? Comment ça a évolué dans le monde aussi? Marie-Geoffrey Roustide, vous êtes sociologue à l'INSERM, le centre de recherche médecine, santé, société, et puis aussi pour le programme de l'EHESS du sciences sociales, drogue et société. Bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Babacar Diouf, vous êtes sociologue, vous êtes toujours en ligne à Dakar, vous travaillez pour les Nations Unies. Vous nous disiez bien que finalement, en première partie d'émission, la consommation de stupéfiants sur le continent africain avait augmenté, en tout cas de façon inquiétante, sur cette consommation de substances de manière trop fréquente et de substances toxiques, parce que finalement, le continent africain, certains pays sont sur les routes du trafic de la drogue, et que donc on est dans une économie de l'offre. Hein, c'est bien cela. Pour vous, ça serait l'offre qui aurait permis cette extension du domaine de la drogue à des consommations locales, hein, Babacar Diouf?
Oui, évidemment, l'offre a beaucoup joué, mais on est aussi dans des considérations, disons, purement économiques. Il y a aussi une demande. Parce qu'en fait, la drogue, la consommation de la drogue touche beaucoup plus les jeunes. Et donc, l'Afrique, l'âge médian en Afrique, c'est 20 ans. C'est-à-dire, les consommateurs entre les segments 14-35 ans sont devenus un marché pour les trafiquants de drogue en Afrique. L'Afrique est jeune et donc l'Afrique aussi a quitté ce niveau des villages où la communauté avait beaucoup de contrôle sur les individus, sur les familles, vers une urbanisation rapide, anarchique.
Vous voulez dire qu'au village, tout le monde sait ce qui se passe et on sait exactement quand un jeune tourne mal, c'est ça?
Tout à fait. Au village, le contrôle social, tout le monde sait ce que c'est tout le monde. Alors qu'en ville, en fait, les sociologues qui sont autour de vous le confirment, nous avons le phénomène de l'anonymat. Et donc la perte du contrôle social, la fragilisation des liens, des rapports sociaux. Avec le stress aussi que nous vivons maintenant, où il y a la compétition vers les ressources, beaucoup de jeunes sont dans le chômage, ils sont sous-employés et il y a une perte de repères au niveau des valeurs qui fondent notre société.
Est-ce que la religion est un facteur qui limite la consommation? Ça a été étudié ou pas?
Je ne pense pas qu'à l'état actuel, la religion puisse contrôler ce phénomène. Parce que nous sommes aussi vraiment dans des sociétés ouvertes où l'Internet, les radios, les télévisions, enfin les médias, diffusent ces images. Et les jeunes sont souvent mal préparés. Et évidemment, la religion devrait jouer son rôle. Mais on a vu un peu partout, en Afrique, quand on isole ce facteur religieux qui a la consommation. Oui. Au Sénégal, par exemple, c'est un pays musulman, mais on avait pu faire une étude en 2011 où il y avait, juste l'agglomération de Dakar, 1300 usagers de drogues injectables. Où il y a 30 millions en Afrique de l'Ouest et du centre d'usagers de cannabis, ouais, et 1 million d'usagers d'opiacés. Donc la religion n'a pas marché, en tout cas pour contrôler.
Que font les États? Que font les États? Massivement de la répression, un peu d'information, un peu de sensibilisation à l'heure actuelle?
Je pense qu'il y a eu quand même les 10 dernières années une grande évolution, parce que suite à la déclaration de Praia, la CDAO a fait a mis en place un plan d'action de lutte contre le trafic, l'usage et la criminalité qui est liée à ces deux phénomènes. Et ça, c'est très, très intéressant parce que ça donne un cadre où les États cherchent maintenant à avoir une information qui consomme la drogue ou quelles sont les conséquences. Et aussi à faire pas mal de prévention au niveau scolaire, au niveau des communautés. Et un exemple qui est très, très intéressant pour le Sénégal, c'est la mise en place pour la première fois d'un centre de prise en charge spécialisé qui est le CQED, où on pensait en le mettant en place qu'on recevrait peut-être 30 à 50 usagers, mais on a dépassé 1000 qui recherchent la prise en charge sociale et sanitaire.
Juste une dernière question, Babacar Diouf, vous le disiez, il y a vraiment un marché de l'offre pour ces stupéfiants. Qui consomme de la drogue? Alors massivement des jeunes, vous nous l'avez expliqué, mais comme en même temps les jeunes, bon, bah, c'est l'essentiel de vos pays. Mais sociologiquement, à l'heure actuelle, étant donné aussi le prix très bas de certaines substances, qui sont les consommateurs et de quoi?
En fait, la consommation de la drogue, c'est un phénomène social total. En fait, ça traverse toutes les couches sociales. Ouais. En fait, nous avons ici deux types d'usagers. On pourrait classer le plus grand groupe, c'est-à-dire c'est ces usagers précaires, c'est le pêcheur, c'est l'artisan, ces gens mal insérés socialement, qui sont précaires, c'est-à-dire qui utilisent même le peu de revenus qu'ils ont pour acheter de la drogue et se retrouvent, sont basculés vers la pauvreté. Mais évidemment, nous avons les usagers de type aisé, qui fréquentent ces bars climatisés, qui fréquentent ces clubs fermés. Heureusement pour eux, quand ils ont des problèmes, ils peuvent être évacués en Europe, prendre des soins et revenir. Et ils ont toujours des moyens pour entretenir cet usage. C'est ça un peu le tableau de la situation de l'usage qu'on voit. Mais ça traverse toutes les couches. Évidemment, le segment jeune est très, très préoccupant parce que c'est là où on trouve la majorité des usagers.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Babacar Diouf, sociologue et donc chargé de programme à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONU DC. Merci beaucoup. Marie-Geoffrey Roustit, sur les raisons de la consommation, puisque en Europe aussi, dans les pays développés, on parle de phénomène total. Alors, il faudrait distinguer aussi qui consomme et quoi et avec quelle fréquence, parce qu'on ne peut pas mettre dans le même sac des consommateurs qui mettent clairement en danger leur santé et puis des consommateurs occasionnelle, mais aujourd'hui, quelles sont finalement les raisons collectives de ces usages?
Alors, les raisons, elles sont complexes et puis elles ont évolué au fil du temps. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que, comme vous venez de le dire, la majorité des usages sont occasionnels et régulés. Et donc, en fait, les raisons pour lesquelles on peut commencer à consommer des drogues peuvent être différentes des raisons pour lesquelles on va poursuivre un usage. Et donc, concernant les usages pour lesquels on va expérimenter les drogues, là, ça peut être la recherche de sensations, évidemment la recherche du plaisir, hein, la recherche d'états modifiés de conscience. Mais en revanche, quand on poursuit la consommation et qu'on se situe dans une situation de dépendance, et là, dans des usages qui sont plus problématiques, là, on se retrouve dans des situations, des raisons qui sont un peu en miroir, c'est-à-dire apaiser une souffrance, ça... C'est ce qui se situe au niveau des raisons individuelles.
Ça veut dire que finalement, chez les jeunes, le côté « je teste tout et puis bien sûr après je prendrai du recul », là, il n'y a pas d'explication sociologique à proprement parler, finalement?
Non, en fait, tout dépend des contextes. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, souvent, les drogues dans l'imaginaire social sont reliées uniquement à la souffrance sociale. Alors, certes, il existe des usages qui sont reliés à la souffrance sociale ou qui sont à mettre en lien, par exemple, avec un mal-être social plus général. Donc, il y a des analyses qui ont été faites et qui ont montré que la perte des repères sociaux, la fragilisation des liens avec la famille pouvait avoir un lien avec des situations de dépendance.
Pour certains pays, pour tous, est-ce que les États-Unis sont dans la même situation que la France, par exemple? La France qui est quand même mal placée dans les consommations
Alors, concernant les motivations individuelles, elles sont relativement similaires dans l'ensemble des pays européens.
Précarité, incertitude...
La précarité et l'incertitude peut jouer, mais généralement quand on passe à des situations de dépendance. Mais je vais vous donner un exemple qui est très révélateur. Il y a une étude qui a été faite, par exemple, à Paris sur les usagers de cannabis. cannabis. Et en fait, qui a montré que le niveau d'expérimentation du cannabis était beaucoup plus élevé dans les beaux quartiers, 16e, 17e, nord de Paris, plutôt que dans les ouest de Paris, plutôt que dans les quartiers du nord-est parisien, beaucoup où il y avait des populations beaucoup plus désinsérées. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour pouvoir consommer des drogues, il faut de l'argent. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce qu'on imagine, souvent les populations aisés vont expérimenter plus les produits. Par contre, ce qui ressort dans ce type d'études et qui nous renseigne sur les motivations à la consommation, c'est que, en revanche, quand on passe vers un usage de dépendance, un usage problématique, là, les populations désinsérées, en particulier les jeunes désinsérés, sont beaucoup plus concernées. Pourquoi ? Parce qu'une des raisons qui explique le passage à la dépendance et à l'usage problématique, c'est le manque de confiance dans l'école, le manque d'espoir dans l'avenir et également le manque de supports sociaux. Et
donc, c'est-à-dire en fait, d'écoute dans la famille, par exemple,
dans la famille, alors, relation... d'écoute dans la famille ou alors simplement ce qui se passe, c'est que quand un jeune consomme du cannabis et quand il passe à un usage problématique, quand vous êtes dans une famille plus insérée socialement, vos parents vont avoir les moyens de vous adresser vers le spécialiste qui connaît la question. Alors que dans un milieu plus désinséré, où souvent l'usage de drogue est beaucoup plus stigmatisé, également beaucoup plus mal vu, ça va être plus compliqué pour un adolescent dans ce cadre-là de parler de son usage et d'être référé à un spécialiste.
Un message intéressant d'Afi qui est à Kinshasa au Congo, qui nous dit « Dans mon pays, même les intellectuels, les gens sensés sont plongés dans ça. » C'est un peu contradictoire. Quand on regarde l'histoire de votre livre stupéfiant, l'histoire des drogues, Emmanuel Retailleau, ça a beaucoup commencé avec les artistes, avec les intellectuels, avec les écrivains, avec les poètes.
Tout à fait. Effectivement, ce n'est pas contradictoire parce qu'au 19e siècle, la drogue reste un phénomène relativement privilégié. Effectivement, ça coûte cher, c'est difficile à trouver et il faut quand même avoir une démarche assez volontariste pour aller vers ces produits et les consommer. C'est ce qui explique que, à la fin du 19e siècle, les catégories concernées par la drogue de manière privilégiée sont plutôt justement des gens aisés, les milieux médicaux, notamment pour des questions de facilité d'accès aux produits, les voyageurs, les coloniaux, les gens du monde aussi, parce qu'il y a un snobisme de la drogue à cette époque, qui d'ailleurs existe encore, hein, dans les milieux mondains, festifs, on consomme des drogues, souvent des drogues assez coûteuses d'ailleurs, comme la cocaïne, pour sortir, pour faire la fête, etc. Il y a une drogue du playboy, il y a une drogue du noceur qui existe encore aujourd'hui. Dans les milieux militaires, également les officiers de marine, par exemple, il y a un grand scandale en 1908 parce qu'il y a un officier, opiumane, qui a vendu des secrets militaires à l'Allemagne. Il est traîné devant la justice et ça crée tout un phénomène médiatique avec cette idée que ce sont les élites qui sont contaminées de manière privilégiée.
Alors, on part dans quelques instants pour le Portugal, si vous le voulez bien. On va parler justement des politiques, des réponses des États, décriminalisation, dépénalisation, légalisation. Les différences et puis ce qui est testé à l'heure actuelle. Vous pouvez aussi nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
Okay. 7 milliards le voisin.
C'est sur RFI.
Nous sommes en ligne avec Marilyn Darcy, notre correspondante pour RFI. Bonjour Marilyn.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes bien donc à Lisbonne, correspondante pour le Portugal, et vous êtes dans un pays qui est souvent cité en exemple pour sa politique de lutte contre la consommation de drogue, qui sert même d'étude de cas. Il y a souvent confusion sur une politique qui est, en tout cas c'est vrai, sortie de la répression. Mais expliquez-nous quelles sont les confusions qui sont faites à l'heure actuelle.
Oui, on confond en fait dépénalisation et autorisation en ce qui concerne la drogue. Alors le Portugal a bel et bien dépénalisé la consommation en 1999. Ça s'est appliqué plus tard, hein, à partir de 2000-2001. Mais en aucun cas, le pays n'a autorisé le joint dans la rue ou l'injection sous autre forme de substance interdite. Il est vraiment nécessaire de rappeler ce contexte parce qu'on pourrait penser que ça dénature complètement la démarche portugaise. Alors il est dangereux d'employer le mot autorisé dans ces circonstances. Alors je l'ai entendu récemment sur un montage réalisé par une chaîne de télévision française. Il est vrai que dans la rue, les concerts ou autres lieux de rencontre ouverts, eh bien, les fumeurs de haschich, eux, n'hésitent pas. Je ne dirais pas qu'ils s'exhibent, mais en fait, ils ne se cachent pas, même si ce n'est pas autorisé.
Ils ne sont plus, en tout cas, susceptibles d'être interpellés par la police et la justice. Quelle est la stratégie suivie par le Portugal ?
Alors, les autorités ont mis en place une politique de lutte contre la drogue qui est plutôt originale. D'abord, en retirant, on vient de le voir, la consommation du délit, du crime, un consommateur occasionnel ne sera pas présenté à un juge. Alors, toutefois, des limites ont été imposées. Les quantités trouvées sur un individu ne doivent pas dépasser une certaine limite, considérée normale, si on veut, pour une consommation de 10 jours. Alors, par exemple, c'est 1 gramme pour l'héroïne, l'ectasy ou les amphétamines, c'est également 1 gramme, 2 grammes pour la cocaïne et 25 grammes pour le cannabis. Encore une fois, il s'agit de la consommation plus ou moins autorisée pour 10 jours. Au-delà, vous êtes soupçonné d'être soit trafiquant, soit revendeur. Et là, la procédure suit son cours habituel, garde à vue, présentation à un juge. Alors, dans le cas des individus qui sont considérés comme des consommateurs, eh bien, la procédure est totalement autre. Ils sont convoqués par une CDT, une commission de dissuasion de la toxicomanie.
Et ce sont ces commissions de dissuasion de la toxicomanie qui font toute la différence dans le modèle portugais ?
Oui, tout à fait, parce que les commissions de dissuasion, elles sont fondamentales dans le dispositif. Les consommateurs de drogue ne sont donc plus des criminels, mais des malades, des personnes en souffrance qui ont besoin d'aide. Alors les commissions de dissuasion sont en fait des cellules composées de psychologues, de sociologues et d'assistants sociaux. L'objectif est de faire comprendre au consommateur qu'il est dans une situation de risque, qu'il peut basculer à n'importe quel moment dans la dépendance réelle. Alors ces commissions, les CDT, elles proposent des aides pour accompagner le consommateur et tentent de l'amener à renoncer. C'est pas facile, bien évidemment. Alors les récidives, les convocations non respectées, les engagements non tenus sont alors consignés. Dans ce cas, eh bien, les attitudes jugées dangereuses sont signalées à la police. Alors, premier et très important effet de la mesure, le désengorgement des tribunaux qui croulaient sous des jugements pour délit de consommation de drogue.
La consommation baisse, est-ce que c'est une politique qui est socialement bien admise également ?
Alors, question consommation, le Portugal se situe au milieu du tableau en ce qui concerne la consommation du cannabis, par exemple. C'est beaucoup moins qu'en France, 5,8% des cas au Portugal, et c'est, je crois, 11,1% en France. C'est le pays qui bat le record. Alors, le cannabis qui a encore cette image de drogue douce dans la population, alors qu'au Portugal, on prend au sérieux la situation, parce qu'en fait, c'est le début de l'addiction. Question cocaïne, le Portugal est 18e sur 25 pays analysés. En 2015, 27 000 personnes étaient soignés pour des comportements dépendants ou autres liés à la drogue. Alors les résultats sont jugés satisfaisants. En tout cas, rien à voir avec les années 70-80 ici au Portugal. C'était juste après la révolution démocratique et la fin des guerres coloniales. Et là, la consommation de drogue avait explosé.
Oui, alors justement, on parlait d'ailleurs des causes politiques, économiques dans la consommation de drogue il y a quelques minutes avec Marie-Geoffrey Roustide. Le dispositif du Portugal est souvent cité en exemple. Est-ce que c'est un modèle en quelques mots, Marine, qui est transposable, transportable dans un autre pays ?
Écoutez, le CICAD, le service qui gère ces questions de dépendance et de toxicomanie, est plutôt satisfait. Il estime que les résultats sont bons. C'est vrai que l'organisme accompagne et développe des études auprès des populations à risque, comme les scolaires ou bien dans les prisons. Alors, il estime qu'on peut transposer le modèle si les bases sont établies. On ne peut pas calquer à cause des différences dans les sociétés. Le Portugal est un petit pays. Il faut respecter certaines règles et avoir des éléments de base qui permettent d'implanter une politique pas très facile, et il y a des détracteurs. On ne peut pas dire que la situation au Portugal satisfait tout le monde, mais c'est un modèle qui pour l'instant donne de bons résultats.
Merci beaucoup Marilyn Darcy en direct de Lisbonne au Portugal. Marie-Geoffrey Roustide, décriminalisation, dépénalisation, légalisation, juste en quelques mots déjà pour qu'on y voit un petit peu plus clair, et puis quels sont les consensus qui se dégagent désormais en Europe, aux États-Unis à la lumière de ce qui est testé, qui marche ou qui ne marche pas, ou qui est décevant.
Alors, le consensus international, c'est déjà le fait que la prohibition ne fonctionne pas, ne marche pas. C'est-à-dire criminaliser l'usage de drogue, c'est-à-dire mettre les usagers de drogue en prison, interdire l'usage et le réprimer, n'a pas d'effet, et au contraire, n'a pas d'effet positif et a des effets délétères. Le fait de prohiber les drogues, de les interdire et de mettre les usagers de drogue en prison, coûte très cher à la société, puisqu'en fait, fait, beaucoup d'argent doit être mis dans les forces de police, donc qui s'efforcent de chercher, donc, d'arrêter de simples usagers. D'ailleurs, les policiers eux-mêmes, hein, souvent s'interrogent sur l'utilité de leur travail, alors que d'autres pays, par exemple, comme le Portugal, ont utilisé cet argent ensuite, pour l'argent de la répression, en dépénalisant, décriminalisant l'usage et remis dans la prévention.
Ce qui ne veut pas dire légalisation, ça c'est encore un autre choix politique.
Voilà, la décriminalisation et la dépénalisation consistent à ne pas mettre les usagers de drogue en prison et à considérer que l'usage de drogue n'est pas un délit, sans pour autant autoriser le commerce des substances et le fait que les usagers puissent avoir accès aux substances. Donc ça, c'est l'étape de la légalisation. Et donc, même au niveau de la légalisation, il y a différents systèmes. Vous avez actuellement une expérience aux États-Unis, donc au Colorado et en Californie, où là, le cannabis a été légalisé, c'est-à-dire que son commerce est autorisé, mais il est autorisé dans un contexte, enfin, qui, pas
encadré
de manière, pas
par l'État.
Voilà, il n'est pas contrôlé par l'État, c'est des firmes privées.
Mais il y a un encadrement,
mais il y a un encadrement sur la qualité, par exemple, des produits, alors que vous avez d'autres expériences en Uruguay où il y a aussi une légalisation, mais là qui est encadrée par l'État.
Notamment au niveau de la production.
Notamment au niveau de la production. Et donc là, l'État peut faire des bénéfices également qui peuvent être réinjectés ensuite dans la prévention, dans le soin. Mais effectivement, il est très important de bien distinguer décriminalisation, dépénalisation, où là, l'accès aux produits n'est pas encadré de la même manière, et la légalisation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le débat en France porte essentiellement déjà sur la première étape, qui est l'étape de la décriminalisation de l'usage.
Oui, alors évidemment, ça donne lieu à beaucoup de débats, oui. De savoir quels sont les résultats de ces expériences, si les chiffres explosent ou pas, finalement, ou en tout cas, s'ils restent stables. Pas évident que les chiffres reculent, mais comment expliquer qu'un pays comme la France qui ne décriminalise pas, tout en essayant aussi d'agir sur la prévention, hein, mais a des chiffres aussi importants de consommation, alors pas toutes les drogues, mais néanmoins par exemple la consommation de cannabis est très importante. Vous nous disiez d'ailleurs en hors antenne qu'à l'heure actuelle, c'est la consommation de crack qui est aussi qui se développe et qui est la plus importante.
Oui, chez les usagers de drogue qui sont reçus dans les structures de soins,
voilà.
C'est le crack à Paris qui est le premier produit qui est consommé.
D'accord, mais comment expliquer que ces consommations soient si importantes, qu'il s'agisse de consommation, on va pas dire douce, mais occasionnelle, non problématique pour la santé, ou de consommation problématique, comment expliquer que la France soit si mal placée depuis tant d'années, notamment par rapport à l'Europe du Sud, où les jeunes, par exemple, font face à des difficultés, où le chômage est beaucoup plus important, par exemple?
Alors, il y a plusieurs explications. En tout cas, pour la question du cannabis en France, c'est clair qu'on est les premier hein, sur les 35 pays. Donc, on a vraiment des résultats qui sont très mauvais. Alors que ce qui est intéressant, c'est de voir que sur la question, par exemple, du tabac, on a réussi en France à faire diminuer la consommation de tabac et la consommation d'alcool chez les jeunes, alors que la consommation de cannabis ne baisse pas. Alors, pourquoi ? Les spécialistes s'interrogent. Hein. C'est très difficile de répondre à cette question. La première chose, c'est certainement qu'on a des politiques de prévention qui ne sont pas efficaces. Parce qu'en fait, comme l'usage de drogue est réprimé en France, il est très compliqué de parler des drogues de manière véritablement honnête sur la question des effets. Et donc, ce qui se passe, c'est que le discours de prévention est très encadré en France et on peut aller beaucoup moins loin, par exemple, qu'aux Pays-Bas, dans des pays qui sont beaucoup plus tolérants vis-à-vis de l'usage et qui ont des résultats bien meilleurs sur la question de la prévention du cannabis. Donc, je pense que si on ne tient aux jeunes qu'un discours sur le danger, la diabolisation des drogues, le problème, c'est que eux, quand ils commencent à consommer, ils se rendent compte qu'au départ, leur consommation n'est pas problématique. Donc, ils ont l'impression qu'on leur a menti sur les effets des produits et résultats, les campagnes de prévention sont beaucoup plus efficaces. Et puis également, on ne met pas suffisamment d'argent sur la prévention, sur la prise en charge. Et donc, tout cet argent qui est mis effectivement sur la répression pourrait être utilement réutilisé, comme c'est le cas dans d'autres pays qui ont de bien meilleurs résultats.
Emmanuel Retailleau, il faut tout de même admettre que même aujourd'hui, bien après l'histoire des paradis artificiels que vous décrivez, il continue de fasciner, et pas seulement les jeunes d'ailleurs.
Oui, bien sûr, parce que la drogue a aussi donné lieu à tout un imaginaire, à toute une imagerie, à toute une littérature, parce que finalement, c'est un phénomène ambivalent, à la fois un problème social, un problème de santé, mais une forme de l'exploration du psychisme humain qui ne peut pas...
Et de l'exploration artistique aussi.
Absolument, de l'exploration artistique, même si, comme j'y insiste quand même beaucoup dans mon livre, la plupart des artistes et des écrivains qui ont consommé des drogues à titre expérimental ont souvent été déçus. parce que ils se sont aperçus finalement que ça donnait une forme de créativité ou d'énergie un petit peu artificielle qui retombait très vite, et beaucoup d'écrivains qui ont eu des visions extraordinaires pendant leur voyage n'ont pas réussi à en faire quelque chose artistiquement, parce qu'après ça retombe. Notamment à Baudelaire, hein, et finalement à ses critiques, hein, dans Les paradis artificiels, mais même Henri Michaux par exemple, qui a écrit plusieurs livres extraordinaires à partir de ses expériences sous mescaline, n'a pas été un toxicomane, c'est resté quelque chose de très ponctuel qui n'a pas donné lieu à une addiction, à une dépendance.
Néanmoins, les illustrations qui sont présentes dans votre livre, j'allais dire aussi quand même, beaucoup des artistes ont très mal fini, hein, mais les illustrations sont absolument incroyables. Vous avez été en lien avec un collectionneur, hein, qui collectionne tout ce qui est sorti sur l'imaginaire des drogues, et la représentation des paradis artificiels. Alors il y a des femmes, beaucoup de femmes d'abord, beaucoup de femmes alanguies sur des divans, des fumeries d'opium. On a l'impression qu'elles sont aussi au centre de l'imaginaire et de la dépravation, hein, autour de la consommation de drogue, ou dans des espèces de volutes de fumée avec des dragons qui crachent de drôles de substances, et bien sûr qui sont aussi toujours représentées, très souvent représentées nues, parce que souvent liées aussi à la prostitution.
Oui, tout à fait. Les drogues, notamment la cocaïne, commencent à se diffuser dans les milieux de la prostitution dès la fin du 19e siècle. Tout simplement parce que parfois ça aide à faire passer la difficulté du métier.
Du métier, oui. Est-ce qu'une société sans drogue est possible, illusoire, souhaitable ?
Alors, elle a longtemps été considérée comme un idéal pour les politiques, et c'est ce qui a donné lieu à la criminalisation. Mais non, elle est, à mon avis, illusoire et pas souhaitable non plus. Tant que les usages de drogue sont régulés, bien sûr.
Merci à vous, Marie-Geoffrey Roustide, sociologue, à découvrir cet article dans la revue Esprit, qui est disponible sur Internet. Emmanuel Retailleau, vous publiez Stupéfiant, l'imaginaire des drogues, de l'opium au LSD à travers l'art, les dessins de presse, le cinéma, aux éditions textuelles. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Et n'oubliez pas, bien sûr, que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique Magazine. Demain, 7 milliards de voisins. Dans les crèches, les écoles, les centres de loisirs, nos enfants sont-ils maintenant surprotégés ?